Okay, so let's get started, everyone.
Heather prend la parole. Bonjour à tous. Nous avons jusqu'à 11 heures du matin pour recevoir un rapport sur le marché des noms de domaine. Alors, je vais passer la parole à George Madsen et Alexia Rath, qui sont à la fin de la table et qui vont faire la présentation. Soyez les bienvenus et merci d'être avec nous, Alex. Merci, je m'appelle Alexia Rath, je suis PDG d'Arkitelos. Et avant tout, bonjour. Salam. Elle salue en différentes langues. Je sais que hier soir, vous êtes resté jusqu'à tard et je vous remercie d'être ici ce matin. Nous avons un ordre du jour assez lourd. On va vous donner un panorama du marché des noms de domaine, vers où, jusqu'où on est arrivé, où l'on peut aller, quels pourraient être les possibles résultats du programme des nouveaux GTLD. En premier lieu, je veux faire une présentation qui nous sommes. On a fait ce genre de présentation pour différentes organisations. Arkitelos a été fondé il y a 2 ans et demi par moi-même et par John. J'étais PDG de .org et puis j'ai aussi travaillé à .mobi et j'ai aidé au lancement de ce nom. Dans la dernière série, j'ai lancé un TED et j'ai administré un registre. Le reste de nos partenaires, c'est-à-dire ils ont une grande trajectoire au niveau des registres. Je m'appelle John Madsen. Bonjour à tous. Je suis le directeur des opérations d'Arkitelos et j'ai le plaisir d'être ici. C'est un plaisir pour moi. Nous avons préparé cette présentation que l'on a faite pour plusieurs sociétés et il y a des membres du GAC qui ont déjà vu cette présentation. Moi, je viens de l'industrie aérospatiale. J'ai été consultant de KPMG, j'étais partenaire et puis j'ai participé du programme des nouveaux GTLD de l'ICANN. À partir de là, j'ai mené à bien plusieurs projets avec l'ICANN. J'ai connu Alexa et on a démarré avec cette société. Nous allons partager aujourd'hui avec vous notre perspective du marché. Nous essayons de partager les considérations économique et entrepreneurial. On ne va pas parler de politique. Nous voulons vous montrer la dynamique du marché du DNS et quelles sont nos perspectives. Nous espérons bien pouvoir mener une conversation avec vous, pouvoir mener un dialogue. Vous pouvez nous interrompre, nous poser des questions et nous voulons une discussion très interactive. Nous savons bien que vous n'arrivez pas à lire la diapo. Hein. Il y a une copie que l'on va distribuer. Mais avant de parler de toute autre chose, nous voulons partager avec vous ce cadre-ci. Là, vous voyez 3 différentes portions. En haut, de 12h à 1h. Voilà, c'est ce que l'on sait que l'on sait. Cela correspond à une portion très, très petite de ce diagramme. Ce que l'on sait que l'on ne sait pas, c'est ce qui vient après. Alors, il y a plein de choses que vous savez que vous ne connaissez pas. Alors, il y a une formule mathématique ici, mais il y a beaucoup de choses dans le monde. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Je ne sais pas de physique, je ne sais pas de particules, etc., etc. Ce que je sais, et il y a une portion beaucoup plus grande qui indique ce que je ne sais pas. Voici ce qui provoque des conséquences non souhaitées, l'obsolescence, aussi des interruptions, des altérations. Alors, ce que l'on veut, c'est partager des choses que peut-être vous ne saviez pas, que vous ne saviez pas. On va essayer de vous donner une connaissance spéciale sur les choses que vous savez que vous ne connaissez pas. Voilà le contexte de notre présentation. Nous passons maintenant à la diapo suivante. Je veux continuer maintenant. Nous aimons revenir dans le temps. Voici l'an 2000. Vous vous rappelez de l'an 2000? Combien d'entre vous, vous travaillez au DNS en 2000? Pat? Il n'y a que deux personnes qui travaillaient au DNS en 2000. Que s'est-il passé depuis lors? Depuis l'an 2000, Napster est entré en scène. On avait 40 millions de noms de domaine en 2000. À ce jour, on a plus de 258 millions. Si vous regardez sur Google, on a commencé en 2004. Ce n'est que 9 ans. Il y a 9 ans. C'est très peu de temps. Moi, je viens de l'industrie aérospatiale. Il y a quelque chose que j'aime bien et c'est que si l'on veut, aujourd'hui, pour 200 000 dollars, on peut aller chez un agent de voyage et acheter un ticket pour aller dans l'espace. On peut réserver un billet. Il y a des agences de voyage galactiques qui vont accepter cet argent. Moi, je ne savais pas ça. Mais le monde continue d'avancer. Et ce que je veux, c'est que nous pensions que peut-il se passer au fur et à mesure de nos progrès. Ce que l'on ne savait pas, c'est la quantité de candidatures au nouveau GTLD qu'il allait y avoir. J'ai été au début du processus d'évaluation. On s'est dit 300, 500, peut-être. On a reçu presque 2000. Quelle surprise, hein? Nous continuons. Alors, que va-t-il se passer dans les prochaines années? On ne sait pas, mais nous espérons que cette année, il va y avoir la délégation des premiers GTLD. Il se peut qu'il y ait des changements politiques, des ouvertures plus importantes. Il peut y avoir la crise sur Internet, plus de tourisme spatial. Il peut y avoir des technologies qui viennent altérer tout l'environnement. Ce que l'on ne peut pas voir à l'autre bout, c'est qu'en 2020, je vais avoir 60 ans. Ça je suis sûre, hein, j'aurai 60. Mais de ce que nous avons parlé aujourd'hui, c'est de nos perceptions et de nos apprentissages sur ce que nous croyons qui peut arriver dans les prochaines années au niveau du marché du DNS. Et nous allons essayer de vous donner un point de référence dans le contexte. Alors, vous voyez ça, on voit ça comme une époque d'innovation au sein de l'industrie, aussi bien pour les registres actuels, et aussi avec l'arrivée de nouveaux candidats au marché. Mais cette innovation peut apporter une croissance ou une chute. Et nous voulons que cette discussion soit abordée au titre personnel, parce que nous, on peut avoir des CCTLD dans nos marchés. Et tout cela fait l'objet de changements justement à cause du marché, non seulement à cause des nouveaux GTLD. On va en parler plus en détail par la suite. Alors, nous allons voir les aspects de base du marché. Alexa prend la parole. Merci. Nous passons à la diapo suivante. Comme John l'a mentionné, il nous faut comprendre le marché, non seulement du point de vue des noms de domaine, mais aussi des registres pour pouvoir comprendre le marché dans son ensemble. Ce n'est pas la première expansion, c'est la plus grande expansion, celle de cette série de nouveaux GTLD qui affecte l'Internet. Alors, 257 millions de noms de domaine, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Il y a eu une énorme croissance. Il y a de 8 à 10 % de croissance par an. Nous pouvons voir aussi quelles sont les autres industries que nous connaissons qui, suite à des désastres financiers du marché ou des désastres immobiliers, on conserve un taux de croissance de 8 à 10 %. Il y en a combien que nous connaissons? Il n'y a pas beaucoup d'exemples, n'est-ce pas? Alors, les TLD originaux ont été sélectionnés non pas sur la base d'une recherche ou d'une enquête du marché où on pouvait savoir quels étaient les consommateurs qui vont avoir ce comportement, etc. Il s'agit d'une mesure arbitraire, .com, .net, .org, .gov, .mil. En octobre, il y a eu la première série. En 2000, il y a eu la première série. Il y avait des parrainages, des parties intéressées qui ont dit, eh bien, ce serait bien d'avoir .aero ou .biz ou .autre chose. En 2004, et c'est là que j'ai commencé le lancement de .mobile, c'était pour l'Internet mobile. Si vous vous souvenez, dans la dernière diapo de ce que l'on ne sait pas, de ce que l'on ne sait pas, une des choses qui a tué le modèle d'affaires de .mobile, c'est justement l'iPhone. .mobile avait l'intention d'être l'identificateur pour les sites mobiles. Mais que s'est-il passé? Vous savez ce qui se passe quand vous avez un téléphone qui apparaît dans le marché. On peut accéder à n'importe quel site, .net, .com, .org, .co ou quoi que ce soit. Et alors, on permet d'entrer dans l'interface de l'utilisateur. Alors, le dot mobile, le point mobile est devenu obsolète. Nous ne savions pas ce que nous ne savions pas. Et cela, c'est justement cela qui a provoqué un énorme changement, OK? Alors, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On savait qu'il allait y avoir de nouveaux GTLD, mais aucune idée du nombre de candidats. Alors, si on divise ça de manière académique, on a 7 TLD, des premiers TLD, qui, à ce moment-là, s'appelait TLD parrainé du groupe de l'industrie sous point mobile, par exemple, pour l'industrie mobile. De 155 CCTLD et 40 noms de domaines de haut niveau d'IDN. Et voici le plus grand changement qui va se produire au sein d'Internet. Il y aura quelques 1000 TLD supplémentaires qui vont s'ajouter. Alors, maintenant, nous allons parler de la structure des registres. Parce que le lexique ici, c'est quelque chose d'important. Le choix des mots, c'est ce qui est sous-jacent à nos suppositions sur les modèles d'affaires, etc. Au début, il y avait des registres, des bureaux d'enregistrement et des revendeurs. Alors, un registre traditionnel de ce modèle aurait des bureaux d'enregistrement multiples qui pouvaient aller directement chez les registrants et leur vendre ou bien vendre à travers des revendeurs. Voilà donc le modèle de VeriSign, d'Affilias, lorsqu'ils ont créé .info et Nostar au début. Nous avons maintenant un registre back-end qui a non seulement son propre .info, mais qui en plus, offre des services back-end, c'est-à-dire un excès de capacité, pour ainsi dire, pour différents noms de domaines de premier niveau et pour les CCTLD. Alors, vous voyez là que ce qui a démarré avec Affilias et VeriSign, et voilà où nous en sommes. On a .co, par exemple, la Colombie, un CCTLD, mais qui est commercialisé comme un domaine de premier niveau, comme un GTLD. Ce que nous avons vu comme résultat de l'ouverture du marché, c'est l'entrée de nouveaux acteurs et un changement dans la structure du modèle commercial de ces registres. Alors, les Minds and Machines, en est un exemple, un fournisseur de registres back-end qui a aussi présenté la candidature pour son propre TLD. Ils sont tout neufs dans le marché, hein, ils sont en concurrence, non seulement avec d'autres candidats du point de vue de la chaîne de caractère, mais aussi ils offrent des services back-end et ils sont toujours en concurrence avec les vieux fournisseurs. Vous avez des questions à poser? Ok, on continue. Les propriétaires ou, pour mieux dire, ceux qui ont un contrat avec les GTLD, il faut établir la différence entre cela et les registres. Il y a souvent des discussions au sein de l'ICANN. Hein. Ils sont interprétés comme la même chose, comme si c'était la même chose. Mais le GTLD, c'est un bureau qui a un contrat pour administrer un GTLD et qui n'a pas de service technique, qui n'offre pas de service technique. Vous devez vous souvenir de toute l'industrie des télécommunications, n'est-ce pas? Comment ça se passait dans l'industrie des télécommunications? Il y avait des acteurs qui n'avaient pas leur structure back-end, mais qu'ils acheter de la capacité ou avait une plus grande capacité. C'était comme le secteur du marketing. Et alors, on a décidé plus tard de ne pas faire du back-end, mais de sous-traiter cela avec un opérateur externe. Il est important de parler des fonctions de registre. Et je parle de registre dans le sens strict d'avoir back-end et front-end. Les fonctions de registre se développent sur deux lignes. D'une part, il y a le système d'enregistrement partagé, à savoir les noms de domaine que nous connaissons, si le nom de domaine est disponible, bien, et sinon, il y a un message qui dit non, ce n'est pas disponible. Si le nom de domaine n'était pas disponible, le système est très facile. On fait une recherche sur une base de données plane. Si le domaine est disponible, OK, et ça commence à fonctionner. Mais le fait d'avoir enregistré un nom ne veut pas dire forcément qu'il y a la résolution de ce nom. Voilà la partie du système de résolution où il est nécessaire d'avoir un mécanisme pour s'assurer que ce nom soit résolu au niveau spécifié, qu'il puisse avoir la capacité pour que ces noms enregistrés fonctionnent effectivement, indépendamment d'où ils se trouvent situés. Vous voyez que les revenus viennent d'ici. Voilà, c'est la structure des coûts. La raison pour laquelle les nouveaux GTLD, c'est-à-dire les titulaires de nouveaux contrats, ont décidé de ne pas prévoir leur propre structure back-end, c'est pour cette question-là. C'est très cher, c'est un système très cher à construire parce qu'il faut des économies d'échelle et il faut s'assurer que le système pourra supporter les attaques. Et alors, la différence entre un registre avec 1000 noms de domaine, par exemple, et un autre avec 5000 noms de domaine, du point de vue du coût de résolution, ce n'est pas si important. Parce qu'il faut qu'il y ait le centre d'opération, la résolution, la sécurité, etc. On continue. Je passe la parole à John encore une fois.
John prend la parole. Je n'attends pas que vous puissiez lire ce diapo, mais que vous compreniez un petit peu ce que l'on veut dire ici. Voilà le marché total que vous voyez, le marché complet. En rouge, on voit la portion correspondant au GTLD et en bleu, la portion correspondant à CCTLD. Et on voit que le marché continue de se développer. Et si vous regardez aux facteurs économiques, si on regarde 2007, l'expérience économique de chacun de ces marchés, on voit que ça va ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Mais ce marché a continué de croître de façon soutenue. Et cela parce que beaucoup d'opérateurs qui sont dans le domaine de la gestion aujourd'hui ont été dans cette gestion, ont appartenu à cette gestion pendant quelques années uniquement. Et cela est différent par rapport à d'autres marchés. Voilà le point principal. Ici, sur ce schéma d'en bas, vous voyez la part de marché. En 2007, les GTLD avaient 63% de part de marché. Les CCTLD avaient 37%. Aujourd'hui, les GTLD ont 57% et les CCTLD 43%. Donc, de façon agrégée, les CCTLD ont pris des parts des marchés, du marché des CCTLD au cours des années. Si nous regardons les schémas d'en haut, si nous regardons les noms de domaine et la gestion, cela a évolué. Il n'y a pas de différence significative entre l'expérience des deux marchés. Ce que nous voyons aussi, c'est qu'il y a une croissance qui n'est pas la même dans les différents marchés. Donc, prenons un de ces marchés. Et là, nous voyons que VeriSign, et nous remercions VeriSign d'avoir publié ces données, parce que l'on peut voir avec 3 GTLD net.org, le changement en pourcentage nous montre une ligne de tendance qui commence à être de plus en plus lente, une croissance qui est de plus en plus lente. Cela correspond à 2012 contre 2011. Qu'est-ce qu'on peut constater dans le marché ? En 2012, on peut constater que le marché commence à ralentir, la croissance du marché se ralentit en ce qui concerne le nombre total de TLD vendus. Le schéma suivant nous montre beaucoup d'informations. Ce sont les CCTLD européens. Vous voyez, c'est Denig qui a augmenté de 5%. Cela représente 2,5%. Et on voit que cette croissance s'est ralentie. Et vous voyez que, donc que la tendance est plutôt la même pour tous ces CCTLD. On veut s'assurer donc de bien comprendre le fait que même si les GTLD vont entrer dans le marché, il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose. Le marché change. Le marché a commencé à changer avant les GTLD de façon générale. La croissance s'est ralentie. La diapo suivante. Pourquoi le marché, tout d'un coup, commence à ralentir sa croissance? Il se développait à 8%, 9%. Pourquoi? Parmi les raisons que l'on a pu identifier, on trouve la saturation du marché. Par exemple, dans le marché allemand se trouve à un moment où la création de nouvelles entreprises et la demande de nouveaux noms de domaine arrivent à un point de saturation. Le besoin de comprendre, d'acheter de la part des registrants rend cette croissance plus lente. La Russie, la Chine et d'autres marchés ont une croissance beaucoup plus rapide. Il y a d'autres opportunités. Donc, cette croissance n'est pas similaire dans les différentes régions du monde. On voit une pertinence moins importante des noms de domaine lorsqu'on navigue. J'ai 2 enfants de 14 ans et de 10 ans. Et ils n'écrivent jamais quelque chose directement. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un nom de domaine ou à quoi cela ressemble. Alors, quel est l'impact? Quelle est la pertinence donc du nom de domaine? Et puis, nous avons les difficultés économiques mondiales. L'économie peut avoir un impact sur nous. Est-ce qu'elle peut nous ramener à une réduction des volumes? Les spéculateurs possède des portefeuilles importants de noms de domaine et le capital qu'ils détiennent est très important. Et ce capital ne peut être attribué qu'à certains achats. Ce n'est pas qu'il y a une offre infinie de noms de domaine. Il s'agit d'un capital qui peut même être retenu, être appliqué au nouveau GTLD quand ceux-ci vont apparaître. Et peut-être que ces portefeuilles, au moment où les GTLD vont apparaître, vont se réduire. Mais il y a d'autres facteurs qu'on a constatés qui pourraient expliquer ce ralentissement de la croissance du marché dans le monde entier. Diapo suivante. Alexa prend la parole. Quelle est donc la dynamique du marché des noms de domaine? Une information importante pour le GAC, même si on en a parlé, ce sont les usagers finaux. Ce sont les usagers finaux qui finissent par encourager la demande. C'est leur comportement, c'est leurs attentes, et c'est ce qu'ils ne veulent pas. C'est eux qui établissent la demande. Le iPhone, par exemple, ou le iPad. Les gens ne savaient pas qu'ils en avaient besoin jusqu'à ce qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont connu. Et leur comportement, les comportements des gens, leur passion vis-à-vis de ce dispositif a eu un impact significatif sur PointMobi, mais aussi sur la façon dont nous naviguons sur Internet. Les usagers finaux d'Internet, leur comportement, leur façon de naviguer, leur façon de chercher des informations, leur façon de s'identifier, de communiquer entre eux, voilà ce qui est derrière le comportement. Moi, j'appartiens à une génération qui communiquait par courrier électronique. Combien d'entre vous ont des enfants ? Avec quelle fréquence vous utilisez le courrier électronique vos enfants et avec quelle fréquence ils utilisent les messages de texte, les textos? Cela change. Les SMS. Avant, nous avons été ceux qui ont fait du courrier électronique l'application qui gérait l'Internet. Mais nos enfants, ils utilisent Twitter, ils utilisent des SMS et tout cela change le comportement de l'industrie. Ce type de comportement dont il faut tenir compte parce qu'ils sont, c'est des comportements importants pour notre industrie. Il y a également une loi qui s'applique aux consommateurs. Ce qui importe, c'est ce qui est le moins cher et le plus rapide à utiliser. Le plus facile à utiliser. C'est ça ce qui pousse à adopter certaines applications, que ce soit moins cher et plus facile à utiliser. Quelles sont les technologies bouleversantes ou qui produisent des bouleversements, que ce soit dans l'espace de nom de domaine ou parce que le comportement de l'usager final change? Pensons à Twitter. Quand Twitter est apparu, les gens qui ont plus de 50 ans ont trouvé que cette notion de mettre un message en 140 caractères n'avait pas beaucoup de sens. Il aura 60 ans en 2012. Le fait que Twitter permette de publier quelque chose très rapidement, c'est justement la clé de son succès. Et en fait, si nous pensons aux nouvelles, c'est justement la capacité de Twitter et de Facebook de transmettre des messages de la rue. Les gens ne devaient pas aller passer par fax les messages par rapport à ce qui se passait au printemps arabe. Ils se sont communiqués par Facebook ou par Twitter. Et ce que change aussi, ce sont les moyens d'accès. Je pense que le moment va venir où nous allons pouvoir raconter à nos petits-enfants qu'il ne faut pas uniquement marcher vers l'école, mais que l'on doit aussi utiliser un clavier avec un câble. À cette époque-là, on avait des claviers avec des câbles, et ces choses-là, elles ne vont plus exister. Il s'agit d'opportunités d'innovation et de changement. Ce que nous avons vu, par exemple, avec les séries d'iPhone, les différentes éditions d'iPhone. Nous pouvons faire des recherches en langage naturel, par exemple. Les méthodes d'accès ont changé. PC versus mobile, cette relation a changé le trafic d'Internet. Et finalement, la réglementation versus la déréglementation. Une partie de l'espace est déréglementée. Les industries des lignes aériennes ont changé non seulement les routes et les prix des billets d'avion et les profils des gens qui ne voyagent pas et qui voyagent maintenant. Et combien d'entre vous utilisent la ligne aérienne Panam? Vous vous souvenez de Panam? Qui ont volé par Panam? C'était une icône. Elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que la déréglementation, l'ouverture du marché, lui a empêché d'entrer en concurrence avec une vitesse suffisante. On voit donc que les icônes peuvent aussi disparaître. De toute façon, les changements sont inéluctables. Prochaine diapo. Qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine? En quoi cela consiste? Parfois, je pense aux noms de domaine et je les compare à des actions. Elles ont une valeur aujourd'hui, le lendemain, la valeur se multiplie par 20. C'est comme une valeur psychologique que l'on attribue au nom de domaine. Il a une certaine valeur, justement, pour cette raison. Mais le nom de domaine est aussi une étiquette reconnaissable qui nous pointe une direction, parce que les machines peuvent pointer vers des ressources et nous ne pouvons pas le faire. Nous comprenons des noms et en pouvant identifier les ressources par le biais de noms, on peut permettre aux gens d'utiliser ces ressources de façon beaucoup plus efficace. La valeur du marché d'un nom de domaine, cependant, est moins liée à leur utilité de base, à leur fonction de base, que à ce que nous percevons par rapport à ce nom de domaine. Est-ce que vous comprenez cette idée? C'est une distinction vraiment importante car cette distinction met l'accent sur les modèles de business. On voit ce que font les spéculateurs, la monétisation du trafic. Et pourquoi mon site, par exemple les cookies d'Alexa, ne va pas être un site pour gagner de l'argent? Si je vends mon site, j'obtiendrai pas suffisamment d'argent que si je vendais Alexa.com. Finalement, ce n'est qu'une étiquette. C'est l'IP et le DNS sous-jacent qui importent et non pas l'étiquette en elle-même. Ce n'est pas le symbole qui importe, mais ce qu'il y a derrière ces symboles ou ces étiquettes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je m'excuse auprès de Pat, mais nous allons utiliser Verisign en tant qu'exemple. Nous connaissons tous .com. Prenons un nom de domaine. Qui connaît la valeur de .com? En fait, on peut l'acheter. La dernière fois que je l'ai vu, que j'ai vérifié, on peut l'acheter pour 9,99. Verisign va recevoir 7,95 $. Et Google, qui est l'un des sites avec le plus grand trafic sur Internet, sa valeur pour Verisign est de 7,85. Combien pensez-vous qu'il dépense au niveau des ressources pour que davantage de personnes puissent utiliser Google.com? Vous vous souvenez ce que c'était le SRS? C'était le moyen d'accéder et la résolution de nom en était le coût. Gambling.com n'est pas une marque. Pour Verisign, cela vaut 7,95. En 2005, il a été vendu dans le marché secondaire pour 20 millions de dollars. Quels sont les marchés que vous connaissez où l'on peut aller acheter une voiture chez un concessionnaire? Une Mercedes? aujourd'hui, elle peut avoir une certaine valeur, mais quelle voiture pourrait avoir une certaine valeur aujourd'hui et valoir demain 10 millions de dollars? J'ai un marché de frigos, par exemple, où je peux acheter des frigos et puis les stocker, parce que je sais que dans plusieurs années, je vais pouvoir les vendre à un prix multiplié par 100. Est-ce que cela pourrait intéresser quelqu'un? L'un des points que l'on veut que vous compreniez, c'est que les marchés ont des efficacités et des inefficacités. Et les objectifs en termes de business consistent à identifier et comprendre les efficacités et les inefficacités et d'en tirer profit de la meilleure façon possible. Ce que nous voulons dire par là, c'est que la structure du marché actuel pose ou possède des inefficacités parce que nous avons tous un dépôt, un entrepôt de frigos. Ce marché fonctionne si il y a une demande de trafic. S'il y a du trafic, cela vaut la peine de dépenser au niveau de la résolution. C'est un modèle qui a besoin d'avoir une masse critique et de durer dans le temps. Mais combien de GTD réunissent ces conditions? La diapo suivante. Parlons de raisons qui sont à l'origine de ces différences. Comme John disait, il y a des inefficacités au niveau du marché. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit par rapport aux conséquences inattendues? Quand il y a des conséquences inattendues que l'on ne peut pas prévoir à un moment donné, ce que nous ne savons pas que l'on connaît, vous vous souvenez en 99 quand les journaux parlaient de ce que c'était l'Internet et les gens essayaient d'acheter des noms de domaine. L'idée, c'est que les noms de domaine ont une valeur. Les marques ont commencé à acheter les noms de domaine. Et c'est là qu'au début de la pratique de IP et des marques, on a vu apparaître le fait que les noms de domaine avaient une valeur et donc il fallait avoir un nom. C'est là où la spéculation a commencé, car si je pouvais entrer et me procurer un .com, à ce moment-là, je pouvais par la suite le vendre à une valeur plus importante. Il y avait des services à cette époque-là qui évaluaient combien valait un nom en fonction du temps qu'il faisait qu'il existait et combien de génériques possédaient ce nom-là. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, les gens se sont rendus compte que le nom n'avait pas une valeur. En réalité, si nous avons une maison au beau milieu de nulle part, où il n'y a pas de route d'accès, personne n'ira la visiter. Donc, l'infrastructure n'a aucune valeur. Le nom lui-même, il n'a pas de valeur. C'est le trafic qui possède une valeur. Ce sont les moyens d'accès à Internet. Sur Internet, il existe un intermédiaire pour ramener le trafic. Et c'est là où l'on voit apparaître les moteurs de recherche. Vous vous souvenez, Lycos et Excite, c'était les moteurs qui ont en premier créé un directoire. Si on cherchait sport, on pouvait cliquer sur sport. Ces moteurs de recherche sont disparus et le trafic a une valeur. Google et d'autres moteurs de recherche ont vu le jour parce qu'ils se sont rendus compte que c'était le trafic qui avait la valeur et c'était eux qui allaient gérer les recherches. Et ils ont ajouté la publicité. En même temps, on a pensé pourquoi ne pas valoriser cette orientation du trafic, cet aiguillage du trafic. L'idée, c'était que le premier venu, c'est le premier accueilli. Donc, une conséquence non attendue des noms de domaine, c'est que pour les registres, l'infrastructure des registres avait un impact au niveau des recherches. Si Google a dit, par exemple, je vais changer mon modèle et Google, après avoir changé le modèle, a mis une flèche au centre de ces personnes, au cœur de ces personnes qui aiguillaient le trafic pour obtenir des gains à partir de la publicité. Donc, le trafic a une valeur, mais combien de fois que vous cliquez sur un nom de domaine et que vous vous trompez, vous voyez apparaître un grand nombre de liens. Est-ce que cela vous semble utile? Est-ce que vous cliquez sur ces liens qui apparaissent lorsque vous vous trompez de page? Le trafic en lui-même n'a pas de valeur et cela, on a vu apparaître cela. Les agents publicitaires ont commencé à payer pour iBox avec un trafic ciblé qui puisse avoir des résultats concrets. S'il s'agit uniquement du trafic, j'en ai pas besoin. Les communautés, c'est ce qui a de la valeur. Le trafic vers l'industrie du jeu. Et puis, on a vu apparaître Facebook. Mais Google n'a pas pris note de Facebook. Si vous entrez dans les bureaux de Google et que vous leur dites qu'il y a une société créée par quelques jeunes dans une université, à l'époque, ils auraient rigolé. Mais ce que Facebook a bien compris, c'est que s'il pouvait regrouper une communauté de gens, s'il pouvait regrouper une communauté d'amis pour leur permettre de s'exprimer facilement, cela aurait une valeur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Les marques qui payaient avant beaucoup d'argent pour des noms génériques dans le marché secondaire ont commencé maintenant à faire des publicités, pas forcément sur les .com, mais sur Facebook. Toshiba, Toyota, en toyota.com / Facebook. Si vous aviez dit au conseil d'administration de Toyota il y a 3 ans que la marque allait figurer dans une entreprise créée par des jeunes dans une université, ils ne vous auraient pas cru. Mais ils l'ont fait. Donc les marques sont maintenant à la recherche du trafic orienté vers les communautés de Facebook. Et d'ailleurs, c'était l'époque où gambling.com a été vendu pour une valeur de 2,5 millions de dollars. Il y a quelques années, 20 millions et maintenant, de changer. Non, c'est la perception de valeur du marché qui a changé. Et ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu une révolution. Nous avons commencé à utiliser Internet de façon mobile. Donc, non seulement avons-nous Facebook qui commence à avoir du trafic, mais aussi en 2008, on a vu apparaître le iPhone. En 2011, on a vu apparaître la nécessité d'avoir des applications. On pouvait les télécharger, on pouvait les acheter pour le site que l'on voulait. En 2011, il y avait 10 millions d'applications qui étaient téléchargées de Apple. En 2012, seulement 46 milliards. Cette courbe ne ressemble-t-elle pas à ce que l'on voyait à la première période d'Internet? Il y avait quelqu'un qui téléchargeait, il y avait quelqu'un qui utilisait cela. Et d'ailleurs, quand ça a été la dernière fois que vous avez vu un nom de domaine, que vous avez cliqué sur une application pour aller vers un autre site web? Maintenant, la communauté a une valeur et Facebook a pu gagner la bataille contre Google en ce qui concerne les montants liés à la publicité. Les sociétés, les agences de publicité, les marques qui sont intéressées au trafic sur Facebook s'adressent aux communautés de Facebook pour essayer de voir combien de j'aime figurent par rapport à certains thèmes. Cela ne se traduit pas directement en termes d'unités achetées. Le fait d'avoir Toyota sur Facebook, cela ne veut pas dire que je vends davantage de voitures Toyota. Alors, elle est où la valeur? C'est quoi qui a une valeur? Ce sont ces communautés qui sont créés avec certaines personnes comme cible. Par exemple, les voitures. Si on est un grand amateur des voitures classiques, peut-être qu'on pourrait retrouver ces gens sur Facebook. Mais ces groupes ne seront pas similaires, mais Or, s'il y avait une communauté qui se réunit, les gens qui font de la publicité et qui sont intéressés à vendre des voitures classiques va cibler donc cette communauté d'amis qui se regroupent parce qu'ils ont un intérêt en commun. Donc la communauté elle-même n'a pas de valeur. Ce qui a une valeur, ce qui a valeur, c'est le type de communauté dont il s'agit. Une communauté qui est fiable, qui est cohérente et qui est uniforme. L'un des points créés par Facebook, c'était la confiance. Vous vous souvenez de la confidentialité, les gens qui disaient « j'ai 1000 amis sur Facebook ». Mais combien d'entre eux je connais vraiment? Combien d'entre eux disent « si tu me donnes 5 dollars, je le ferai ». Je n'ai pas la confiance. C'est ça ce qui manquait sur Facebook.
Alors, si l'on peut faire qu'une communauté soit unie à celle sur laquelle on a la confiance, avec laquelle on communique bien, alors là, c'est une bonne cible pour l'agent publicitaire et pour vous aussi, parce que c'est justement là les gens avec lesquels vous voulez parler. Hein, si vous aimez les voitures, il faut parler avec ceux qui aiment les voitures et pas les jardins, quoi. D'autres concepts desquels on a parlé, c'est la distinction entre la raison, le pourquoi, le quoi et le comment. Combien parmi vous, vous avez des VHS à la maison? Bon, c'est rare maintenant, hein? Combien parmi vous, vous avez extrait? Vous vous rappelez de ça? La raison, c'est qu'il y a plusieurs manières de satisfaire des besoins. Laissez-moi reprendre. Le pourquoi a trait à la raison pour laquelle on le fait, parce qu'on le veut. Et les besoins ont trait justement avec les besoins. Les besoins humains ne changent pas. On a toujours un besoin de nous identifier, de nous communiquer. On a toujours le besoin d'informer les autres, de nous informer nous-mêmes. Et c'est pourquoi si on met quelqu'un en solitude, confiné, il ne va pas se sentir bien parce que ce dont on a besoin, c'est de se communiquer. Et là, il faut chercher la manière de satisfaire à ses besoins. En ce qui est du transport, il faut informer où est-ce que l'on va. Nous voyageons en voiture. Maintenant, il y a des avions. Le moyen a changé, mais le besoin est toujours le même. Pensons au site web et au moteur de recherche. Ça, c'est le comment, parce que le nom de domaine crée ses moyens et on dit, eh bien, je vais créer un site web pour raconter à tout le monde quels sont les services qui sont en vente. Mais maintenant, il y a d'autres manières de satisfaire à mes besoins, plus rapides, moins chers. Et si cela existe, je vais y participer. Il existe d'autres moyens qui peuvent faire que le nom de domaine soit plus important. Par exemple, la navigation contre la recherche. Si vous vous rappelez bien, au début d'Internet, les gens avec certains navigateurs avaient une liste de favoris. Alors, on sauvegardait dans la liste de favoris et on y revenait. À ce jour, vous utilisez beaucoup votre liste de favoris? Non, on fait des recherches. Alors maintenant, on fait les recherches. Si vous mettez CNN et vous faites une recherche, vous ne mettez ni .com ni rien. Pourquoi? Parce que vous obtenez directement une liste qui vous amène dans ce site. Avant, on vous disait, il y a une erreur. Alors, les technologies ont évolué pour que maintenant, il ne soit pas nécessaire de se rappeler du TLD. Nous parlons de mobile, d'Internet sur les mobiles et nous allons voir quels ont été les changements de 2008 à 2012, seulement 4 ans. On n'a pas encore le chiffre pour 2013, mais entre 2010 et 2012, vous pouvez voir plus une augmentation de 2 fois, plus de 2 fois. Et la plupart du trafic Internet passe par des dispositifs mobiles. Quand j'utilise des dispositifs mobiles, il y a moins de possibilités de créer un nom de domaine, de voir un nom de domaine. Il y a moins de possibilités d'écrire tout un nom de domaine parce que le modèle d'entrée de données a changé et alors on n'en a plus besoin. Si c'est moins visible, il y a les nouvelles technologies, les technologies perturbatrices, alors il y a quelque chose de plus rapide, je n'ai pas besoin de taper les adresses. Ceci va provoquer que les noms de domaine soient moins utiles? Non, parce que c'est une manière de naviguer, de surfer dans un site, dans une page contenant de l'information. Les codes QR sont massivement liés à des noms Internet. On a des codes QR pour les produits, pour les hôtels, les coupons, tout ce que l'on puisse utiliser. Vous pouvez même le voir dans une annonce sur le journal. Vous faites clic sur le code QR là et vous pouvez voir tout ce concernant au vin, etc. Vous avez besoin seulement d'avoir votre dispositif mobile, de prendre une photo. Et là, je n'ai pas vu le nom de domaine. Ce n'est pas nécessaire. Vous vous souvenez de ce que les registres faisaient? Ils résolvaient le trafic. Alors, il y a quelqu'un qui résout le trafic en ce moment. On reçoit un paiement pour le nom de domaine? En fait, il y en a plein d'autres. Notre industrie se regarde elle-même, on explore, il y a des variations de noms de domaine et pendant ce temps, le monde extérieur est arrivé au service perturbateurs qui viennent faire le complément de ces services. Facebook, par exemple, donne l'identité à une personne et cette personne peut s'exprimer librement, comme sur Twitter d'ailleurs. Alors, il y a des codes de barres en 3D. C'est la même chose que les codes de réponse. Et par exemple, en Afrique, la forme de l'Internet mobile à impliquer les codes courts pour recevoir et pour faire des paiements. Puis après, il y a les géocodes, non seulement Facebook, Flickr, MySpace, etc. Et puis, il y a des URL plus courtes parce que lorsqu'on veut diriger le trafic dans une portion d'un site, nous avons alors des instruments qui font le raccourci pour pouvoir arriver au site. Vous avez des questions? Ça, on l'a vu dans une autre industrie? Pendant la période dont je parle, à savoir les 10 dernières années, on a accepté que les changements massifs étaient des modifications ou des changements qui se donnaient aussi ou qui arrivaient dans d'autres industries. D'abord, il y a eu les ordinateurs de bureau. On pensait que les laptops étaient les laptops étaient trop chers. Puis il fallait mettre le logiciel, faire la propre configuration. C'était cher. Et maintenant, on a un téléphone intelligent pour $200 et on a beaucoup plus de capacité que celle d'un ordinateur de 2004. Parlons maintenant des nouvelles. Voici une autre industrie qui a changé de manière significative. Avant, on savait les nouvelles de dernière minute dans le journal du matin. Une anecdote intéressante, c'est qu'avec ce qui s'est passé en Égypte, on n'a pas téléphoné le journaliste du CNN, mais on a mis ça sur Facebook. Il a dit ce qu'il voulait faire sur Facebook. Ça, on ne l'avait jamais entendu. Mais comme c'était plus rapide, plus facile et meilleur marché de passer les nouvelles sur Facebook, et les faire parvenir au public au lieu d'attendre la une des journaux. Alors, on a publié ceci sur Facebook et Twitter. Cela a complètement changé. Newsweek a imprimé après 79 ans sa dernière édition. Newsweek, des journalistes ayant obtenu des prix Pulitzer, des icônes de la presse américaine, a cessé ses publications. Si l'on parle aux éditeurs de cette revue et on leur disait il y a 8 ans qu'il y avait de petites sociétés, Twitter et Facebook, qui allaient avoir cette influence, ils n'auraient pas pu le croire. Dans ce cas, pour ce qui est des livres, les petites librairies ont été déplacées par les grandes chaînes. Alors, les grandes chaînes, elles ferment aussi. Mais pourquoi? Parce que c'est mieux, plus rapide, meilleur marché. Je peux avoir 20 livres dans un iPad qui coûte $180. Et on peut aller dans une librairie et prendre un chapitre. Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire en ligne. On peut dire, bon, je veux voir un échantillon avant d'acheter le bouquin. Alors, l'industrie des éditions change aussi. L'industrie de la musique a aussi changé. Pourquoi? Parce que avant, si l'on voulait une chanson, il fallait acheter le disque entier. Et on pouvait aller dans des sites où on pouvait voir les disques, mais ceci est disparu. Il n'y a plus de moyens physiques. Quand on trouve l'échantillon, on peut créer de la musique, des fois de manière illégale, malheureusement. Mais la question est que les technologies de distribution, de téléchargement se sont modifiées et ont changé le sort ou des sociétés qui ont gagné beaucoup d'argent en identifiant des talents. Et la même chose pour l'industrie de la vidéo. Vous vous rappelez de Blockbuster ou la vidéo shop du coin de la rue. Ceci a disparu. Et en très peu d'années. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, on peut télécharger. On peut être ici et regarder un programme de la télé ou un film dans votre tablette. La télé peut vous fournir des films à demande. On peut ne pas aller au cinéma si l'on ne veut pas. Alors, on peut télécharger. Si l'on veut payer, on peut aussi faire la pause hein, si on veut s'arrêter. Et c'est mieux, c'est plus rapide et c'est meilleur marché. Ceci est supérieur à tout autre modèle commercial. Mais pourquoi tellement de changements pendant les 10 dernières années? On a parlé des 250 millions de noms de domaines. Et si l'on voit ce qu'il y a derrière, il y a des changements qui ont affecté les marchés et la technologie et qui ont profité de nos propres inefficacités. Ils ont profité de cette inefficacité pour obliger l'utilisateur final. On l'a obligé à naviguer en suivant la même route avec les URL courtes. Lorsque l'Internet a commencé, il y avait beaucoup de contenu. Alors, on a dit, bon, moi, j'ai des organisateurs, je vais établir un moteur de recherche sur Internet, on va organiser les contacts, etc. Et alors, Google n'aurait pas pu avoir son opportunité sans toute cette histoire. Google a créé une industrie qui était l'optimisation des moteurs de recherche. Vous vous rappelez, en 99, il y avait des optimisateurs? Non. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est utiliser un outil recherche trompeuse, peut-être, pour que tout le monde puisse être en mesure de trouver ce qu'il recherche. Mais on est de plus en plus en ligne et il y a des montants énormes de publicité qui continuent dans la presse ou dans la télé. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'identifier le marché cible dans ces cas-là. Parce que nous pouvons savoir qui a, par exemple, un dispositif déterminé. C'est difficile de savoir qui veut un produit ou un service déterminé. Je passe la parole à John. Nous avons dit que notre présentation était interactive et c'est plus que lever la main. Alors, si vous avez des questions sur ce que nous avons présenté avant de continuer, il y a des questions? Nous savons que vous êtes très timide et je suis sûre que toutes les conversations sont très tranquilles et respectueuses. Alors, les nouveaux GTLD. L'une des questions auxquelles nous pensons arriver d'après les dernières conversations que nous avons pu avoir, c'est mettre les nouveaux GTLD dans le contexte du marché en général. Parce qu'on parle tellement des nouveaux GTLD que nous pensons que ceci affecte tout le marché. Mais ce n'est pas le cas. C'est seulement une partie qui est menée, qui est mise sur le marché, qui est dynamique et vivante. C'est très important, oui, mais comme Alexa l'a mentionné, le changement est inévitable et tout le monde a participé activement à la possibilité de changement. On va parler donc des nouveaux GTLD. Que se passe-t-il au marché du DNS? Moins de barrières d'accès. Si je veux un nouveau GTLD, si je voulais un TLD il y a 2 ans, je ne pouvais pas l'avoir. Maintenant, je peux demander un TLD et l'avoir. Et cela vient définir ce que veut dire une barrière moins importante. Nouveaux acteurs non anticipés. Avant, on ne savait même pas qui allait présenter des candidatures. On n'a pas pu anticiper les réactions qui se sont présentées. Plus de choix pour les fournisseurs et pour les utilisateurs. Hein. C'est l'idée du programme. Plus d'acteurs, plus de concurrence. Les parties intéressées au marché existantes dans les marchés réagissent très lentement. Mais dans ce cas, ils réagissent rapidement en mettant des ressources en disponibilité. Alors, il faut voir comment ceux qui existent vont réagir devant les nouveaux GTLD. Normalement, on sous-estime la concurrence qui vient d'arriver, les affaires à haut risque et à haut revenu. Je n'ai jamais vu des capitaux à risque participer des réunions de l'ICANN il y a quelques années. Ils ne comprenaient même pas ce que c'était que l'industrie du DNS. Alors, on vendait les noms de domaine pour 2 millions de dollars. C'était une industrie qui n'attirait pas l'attention des marchés de capitaux. Mais maintenant, peut-être, il y a des opportunités. Alors, la concurrence et l'opportunité. L'intégration le long de la chaîne des valeurs. On va en parler dans une minute. Il faut comprendre que l'équilibre du pouvoir va changer. C'est ce qui arrive, c'est une évolution naturelle. Et nous allons voir que les marges et les bénéfices vont se modifier le long de la chaîne de valeur suite aux implications des nouveaux GTLD. Un grand succès peut tout changer. Si nous pensons à tous les candidats, si un seul candidat fait bien la chose, il y arrive, il sera suivi par bien d'autres. Il y a donc trop d'ambiguïté pour imaginer ce qui peut venir dans le futur. Voilà les participants de l'industrie. Vous ne pourrez pas tout lire, mais il y a le régulateur, les registres, les bureaux d'enregistrement. Puis, on a les titulaires des contrats, les bureaux d'enregistrement et les revendeurs et les services de soutien. Voilà, ce sont des différentes couches. Et la couche d'en haut, vous avez les utilisateurs finaux, les bureaux d'enregistrement et les agents de publicité. Si on se demande où est l'argent important, le grand bénéfice dans ce schéma, quel est le grand bénéfice en bas, dans la couche inférieure ou en haut? En haut. La publicité, en termes généraux, est de 50 milliards de dollars et on va dépenser bien plus d'argent si le temps sur Internet dépasse le temps dans d'autres médias. Il y a des capitaux qui sont venus dans cette couche supérieure. Mais le défi, c'est comment arriver dans cette couche à travers un registre, si l'on est un registre, un bureau d'enregistrement, un registrant. C'est vraiment très important. Avant, il y avait une pénurie artificielle, c'est ce que l'on appelle comme ça, et l'offre contrôlée. La pénurie artificielle, c'est le marché secondaire. Avec le programme des nouveaux GTLD, nous allons voir une augmentation de l'offre des noms de domaine. Une augmentation de l'offre. Mais on n'est pas très sûr de ce qui va se passer. Alexa a abordé plusieurs sujets. Elle a dit que le nom de domaine n'est peut-être pas si important. Si tout devient masqué, pourquoi on a besoin d'un nom de domaine, un domaine intelligent? Pourquoi ne pas m'arranger avec google.com ou point quoi que ce soit? Quel est le prix de la technologie? Alors, il faut savoir où est-ce que les marchés iront dans le futur pour être plus efficaces. Les inefficacités et les nouvelles efficacités vont permettre le programme des nouveaux GTLD. Voici des chiffres que vous connaissez. 1900 candidatures, 1400 chaînes uniques, des retraits, ceux qui n'ont pas réussi à l'évaluation, ceux qui ont perdu les chaînes en conflit et plus de 1000 nouvelles chaînes. Alors, un grand, grand nombre. Il y en a qui pensent que dans 10 ans, nous allons avoir 50 000 chaînes. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que s'il y a des chaînes ayant du succès, tout va changer. Hein? Ce que l'on fait aujourd'hui va changer. Il va y avoir des marques. C'est une grande opportunité pour les 600 marques. Et je me rappelle que quand j'étais consultant dans les années 90, il y avait le site web. Tout le monde se disait, pourquoi on a besoin d'un site web? Alors, on parlait avec les gens de marketing et on disait, bon, toutes les marques devront être en ligne. À ce jour, il y a des marques importantes qui puissent considérer la possibilité d'une stratégie de marketing sans un site web. Si nous voulons contrôler la présence en ligne, être présent sur Facebook, sur facebook.com ou dans un autre fournisseur, pourquoi ne pas avoir son propre TLD? Les marques ont du succès suivant la technologie utilisée. D'autres marques vont suivre avec cette stratégie, on ne sait pas. Alors, la sagesse conventionnelle. Dans toute entreprise commerciale et dans toutes les affaires. Le 50% échoue et le plus grand pourcentage n'a pas de succès. Pourquoi pensons-nous que notre industrie ne va pas subir la même expérience? On peut dire, ah bon, il va y avoir un échec massif des nouveaux GTLD. On peut échouer. L'ICANN a été très intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle a créé un processus de transition des registres. Parce qu'il est possible que ce registre ne fonctionne pas. Un programme bien conçu permettant aux forces du marché d'agir garantit le succès ou peut éviter l'échec. Prochaine diapo. Ça, vous ne pouvez pas le voir non plus, je vais le lire. Vous souvenez-vous du schéma où il y avait le registre jusqu'au régulateur? Eh bien, maintenant, on l'a organisé de droite à gauche. À droite, vous voyez l'utilisateur final, les applications, les plateformes, les médias, les moteurs de recherche, les sites web, bureaux d'enregistrement, les registres et le régulateur. Voilà donc comment on voit la chaîne d'information ou la chaîne de valeur de ce marché. Voyons maintenant les acteurs. Nous savons qui est VeriSign, qui est le registre.
Nous savons qui sont les titulaires des contrats. Il y en a qui demandent d'être des titulaires de contrats. On voit qu'il y a des registrants qui n'ont pas présenté de candidature. Nous avons des registres qui vont changer de marché. Nous avons des bureaux d'enregistrement qui vont s'intégrer de façon verticale. Nous avons d'autres registres qui veulent, bureaux d'enregistrement qui veulent entrer dans le marché du registre. Puis nous avons des joueurs importants dans le marché qui auront l'occasion d'opérer un registre. Or, qu'est-ce qu'on peut constater? Du point de vue commercial, une remarque intéressante, c'est qu'il n'y a qu'un seul acteur, un seul joueur qui profite de l'occasion et qui se dit « j'ai la possibilité de travailler un peu partout de façon uniforme dans toute la chaîne de valeur. C'est une opportunité merveilleuse pour pouvoir fournir des services faciles à utiliser et intégrer à tout le monde. » Waouh ! Voyons comment cela fonctionne. C'est intéressant de voir ce qui va se passer. Alexa, on prend la parole. Merci. On parle beaucoup du fait de savoir si les nouveaux GTLD auront un succès ou pas. On ne le sait pas. Mais au moins, nous pouvons imaginer certains scénarios possibles. La meilleure hypothèse et la pire hypothèse. Le résultat final sera un résultat de compromis. Supposons que la pire hypothèse, et c'est un travail d'hypothèse qu'on est en train de faire, c'est qu'il y aura des GTL qui vont échouer. Je ne sais pas, il y aura un rejet de la part du marché ou peut-être qu'il y a des technologies ou des produits qui vont apparaître trop tard ou peut-être qu'il y aura des produits qui vont couvrir la demande. Par exemple, la demande par rapport à la recherche, à des codes QR. Et puis, on a les facteurs dont on n'est pas au courant. Et qu'est-ce qui fait que les noms ne soient pas pertinents? D'autre part, il se peut qu'il y ait au moins un grand succès. Et je dirais que ce grand succès, très probablement, ne va pas répondre au modèle commercial que l'on connaît généralement, la valeur au niveau des ventes de noms de domaine. Alors, si nous avons ce grand succès, quelqu'un qui a bien fait les choses, quelqu'un qui a fait les choses plus rapidement, moins cher et mieux que les autres, quelqu'un qui a eu une proposition de valeur correcte, qui a bien assuré sa distribution, en ce qui concerne les noms gratuits, tout, le marché fonctionne sur l'hypothèse selon laquelle les gens vont payer pour un nom, pour une identité, courrier électronique, etc. Les gens vont payer. Mais que se passe-t-il si c'était gratuit? On pourrait entrer dans un système de prix de commodity. Diapo suivante. Il y a une loi qui peut s'appliquer indépendamment de la technologie dont il s'agit. Il s'agit de la courbe de diffusion. Elle concerne l'adoption. Vous connaissez cela? C'est la loi de l'adoption. Cela dit que, par exemple, si nous voulons prédire si on arrivera à une masse critique, et c'est le but de la plupart des registres, pour y arriver, il faut avoir 16% du marché. Mais souvenez-vous, marché, il doit s'agir d'un marché abordable, c'est-à-dire il faut connaître ce marché. Donc ce 16% est le minimum à atteindre pour pouvoir arriver à une masse critique. Si on n'y arrive pas, dans les meilleurs des cas, on pourrait se retrouver dans une situation de premier adoptant, c'est-à-dire il y aura des innovateurs, il y aura des premiers adoptants, mais on ne sera pas reconnu et on ne pourra pas passer à la nouvelle série. Voyons un petit peu cette question par rapport à l'adoption. Il y a plusieurs hypothèses. D'un côté, l'exubérance irrationnelle souvent change la perspective. Nous croyons que l'adoption sera plus lente que ce qu'on a prévu. Et cela, non pas parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme chez les candidats, mais plutôt à cause des usagers finaux. Il leur faudra un certain temps pour reconnaître les nouveaux GTLD de façon uniforme. Et c'est pour ça que l'Internet est aussi importante, parce que je peux envoyer un email de la Zambie à Paris, à Washington, sans problème. Alors, s'il n'y a pas une cohérence, les usagers finaux ne seront pas satisfaits et il y aura des confusions parce que cela ne fonctionnerait pas. Est-ce que ce nom de domaine, pourquoi ce nom de domaine ne fonctionne plus? Pourquoi mon email n'arrive pas à destination? Ce sera beaucoup plus difficile pour les TLD plus petits de convaincre les fournisseurs d'applications que d'accepter de développer des codes et de mettre en place des filtres. Si nous avons un TLD qui n'a que 200, quel est le bénéfice d'un fournisseur de filtres de spam ou de courrier électronique de reconnaître ce TLD par rapport à continuer avec l'autre TLD? En ce qui concerne la différenciation et la disponibilité des nouveaux GTLD, pourquoi l'un est plus important que l'autre? Cela est lié à la sécurité, à la confiance. Cette éducation va coûter de l'argent et puis l'éducation ne sera pas la même et ça peut être lent. Ce n'est pas comme à l'époque de ASCII. L'application ne va pas fonctionner de façon uniforme. Et donc, s'il y a un nom de domaine qui fonctionne en tant qu'aiguilleur de la navigation, pourquoi va-t-on payer 2 fois plus ou 3 fois plus? Il est fort probable, donc, que l'on utilise comme aiguilleur des sites qui existent déjà. Et donc, avec quelle probabilité les moteurs de recherche vont adopter les nouveaux GTLD s'ils peuvent déjà utiliser ceux qui existent? Diapo suivante. Y a-t-il des questions jusque-là? Merci, le Danemark. Je représente le Danemark. Vous avez parlé de 2 alternatives, l'échec ou le succès. Pouvons-nous dire qu'il y a 2 tendances? Est-ce que cela impliquerait que l'enregistrement défensif ? Dans ce cadre, beaucoup de domaines pourraient être enregistrés dans le cadre d'une action d'enregistrement défensif. Vous avez expliqué que c'est une question complexe et que les moteurs de recherche seront de plus en plus importants sur Internet. Donc, dans quelle mesure ces sociétés peuvent être enregistrées sur Internet? Dans quelle mesure peuvent-être ces enregistrements peuvent-ils être cédés à un prix plus bas? S'il y a eu des actions de marketing et si le nom de domaine ne peut être conservé? Alexa prend la parole. Tout d'abord, il faut définir ce que c'est que le succès. Si un registre a du succès, c'est parce qu'il est en train de vendre des noms de domaine. Cette définition est de courte portée parce qu'il faut analyser l'utilisation. Il faut que ce soit quelque chose qui bénéficie l'utilisateur. Autrement, on ne peut pas jouer le jeu. Ça doit avoir un sens commercial, le fait de pouvoir participer à un business. Quand on a parlé des noms de domaine et qu'on a dit que c'était des étiquettes, combien d'étiquettes peut-on avoir dans une boîte? Beaucoup. Alors, que se passerait-il si tout ce que je veux, c'est un nom de domaine et que j'ai mon code QR, ma publicité, une autre technologie qui sont devant nous? Est-ce que, par exemple, .blog, .web, est-ce que cela serait intéressant? Peut-être que tu peux me permettre une meilleure résolution, mais les noms n'ont plus de valeur. Même si c'est un bon nom de domaine, il n'a pas forcément de la valeur. Je ne sais pas si cela vous aide à comprendre. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'utilisation frauduleuse et à la sécurité. Voyons la diapo suivante. Vers où va-t-on avec les nouveaux GTLD avec l'utilisation frauduleuse? Y aura-t-il davantage d'utilisation frauduleuse? On ne le sait pas. Comment peut-on mesurer s'il y en aura beaucoup ou moins d'utilisation frauduleuse si on n'a pas une mesure actuelle? Comment peut-on savoir si on a de la fièvre ou pas de fièvre si on n'a pas un minimum, une référence? On sait qu'il y a une référence et au-dessus, on sait qu'on a de la fièvre et en dessous, on sait qu'on n'en a pas. Alors, quand on parle de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, l'Internet est un service de base, est un service public, ce n'est pas un luxe. On sait que cela doit être disponible. L'idée est donc de voir comment je peux mesurer la fiabilité. On peut mesurer la qualité de l'eau, de l'air, on peut mesurer la pollution. On parle de la même chose quand on parle d'utilisation frauduleuse. J'ai un espace de nom de domaine et il faut savoir que cela donne lieu à un équalisateur parce qu'on a la même ligne de base pour faire les mesures. Quand je parle de la qualité de l'air ou de l'eau, je dis s'il y a, par exemple, moins de 100 utilisations frauduleuses par million, alors on serait bien. D'autre côté, si j'ai plus de 10 000 cas d'utilisation frauduleuse, à ce moment-là, on rentre dans une catégorie à risque. Le pourcentage d'utilisation peut indiquer plus de 10% de cas frauduleux de nos domaines. On a le hameçonnage, le spam, etc. Alors, comment peut-on qualifier aujourd'hui l'Internet? Sommes-nous sûrs ou pas? Nous avons 275 millions de noms de domaine et 61% de ce chiffre, si nous analysons tous les TLD, tous les noms de domaine qu'il existe depuis janvier de cette année jusqu'à 31 mai, 61% de ces noms de domaine étaient dans la prudence et 4% étaient dans une situation excellente. Donc, de manière générale, on peut dire que Internet devrait se trouver dans la situation d'être prudent. Cela veut dire que de façon intuitive, on est quand même à l'aise. John Matson prend la parole. Tel que Alexa vient de le dire, nous avons collecté des données provenant de différents fournisseurs de services. Et nous avons analysé ces données pour avoir une vision objective de la qualité d'Internet. Ce n'est pas des données que nous avons élaborées, mais plutôt des données collectées par Arkitelos qui sont normalisées et puis représentées dans un rapport. On peut constater donc que de décembre jusqu'au mois de mai, la tendance en ce qui concerne l'identification d'utilisation frauduleuse nous indique qu'à un moment donné, notre système nous dit qu'il y a environ 1 million de noms de domaines qui se trouvent sur la liste de domaines bloqués. Nous avons des spams, des cas de hameçonnage. On peut voir qu'au cours des 5 derniers mois, la barre qui est en rouge indique les nouveaux noms de domaines identifiés par ces serveurs et ce qui est en vert représente ce qui a été éliminé de la liste de blocage par les fournisseurs. Et on parle là de 25% du total des noms de domaines. Nous essayons donc de fournir des données afin de comprendre où nous en sommes. Notre but est de créer un dialogue au sein de la communauté pour voir ce que cela représente. Nous allons donc demander à ce qu'il y ait un débat ou des commentaires par rapport à ces informations. Tous ces noms de domaine sont hébergés quelque part. Donc nous avons essayé d'analyser les TLD et voir ce qui se passait avec les CCTLD ou les GTLD qui possèdent plus de 100 000 domaines et qui se trouvent donc à 99% de tous les domaines d'Internet. Et on voit donc quelle est leur performance et on a ici une catégorie de abus ou utilisation frauduleuse par million. Si un TLD à moins de 100, on le met dans la catégorie excellent. Si les chiffres se trouvent entre 100 et 1000, c'est la catégorie bonne. Et si on a entre 10 et 10 000, 100 et 10 000, prudence et plus de 10 000, à risque. Tel que Alexa l'a dit, notre objectif est d'essayer d'établir une ligne de base, c'est-à-dire un point de référence. Et bien entendu, il y a des questions qui surgissent à partir de cela. On a certains domaines qui sont placés dans certaines catégories et d'autres dans d'autres catégories. Au fur et à mesure que nous analysons, nous allons voir quel est le rôle du prix dans cet LD et les restrictions aux enregistrements. Nous analysons donc plus en profondeur ces informations, mais nous voulions vous donner un aperçu des premières analyses que nous avions faites. Alexa, Heather prend la parole. 1 minute, Alexa. Je pense que nous aurons la salle jusqu'à 11h. Donc, je vais te demander de faire une synthèse afin que nous puissions commencer la prochaine séance. Oui, il ne me reste que 2 diapos. Nous anticipons que nous créons les noms de domaine sur la base de notre propre expérience. Nous savons que l'utilisation frauduleuse est un problème qui doit être résolu. Et pour voir de quelle façon nous pouvons atténuer ce type d'utilisation, il existe des sauvegardes qui ont été publiées par le GAC. Les sauvegardes du GAC, en général, concernent la mise en œuvre. Donc, concerne la surveillance de la mise en œuvre des TLD dans le système de nom de domaine. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On voudrait passer à la diapo suivante. On veut savoir s'il y a une mauvaise utilisation ou un fonctionnement qui n'est pas correct. On veut savoir qui en est le responsable. On veut savoir s'il y a des conséquences. S'il y a quelqu'un qui a un comportement fraudulent, il faut qu'il y ait des conséquences. On peut, par exemple, suspendre le nom de domaine, etc. Alors, nous avons le système NameSentry qui s'occupe de faire la surveillance et l'atténuation parce que ce centre envoie une notification au bureau d'enregistrement par rapport au type d'utilisation frauduleuse dont il s'agit. Ce système automatise tout le processus de notification pour informer le registrant par rapport au nom de domaine dont il s'agit, ainsi que du bureau d'enregistrement dont il s'agit, afin que des actions correctives puissent être mises en place. Ce système fait également un suivi de la cohérence, parce qu'il faut bien entendu avoir une politique et la mettre en place. Il faut être cohérent dans la mise en place des politiques. Alors, tout doit être documenté et audité. Nous voulions vous montrer quelle est donc cette ligne de référence, vous expliquer la méthodologie, vous raconter comment cela est lié aux sauvegardes, et c'est ce que nous avons fait dans notre présentation. Heather prend la parole. Merci à vous deux pour cette présentation. Et s'il y a des membres qui ont des questions, je pense qu'on pourra les leur faire parvenir. Parce que malheureusement, on ne dispose pas de suffisamment de temps maintenant pour pouvoir faire des commentaires. Merci à tous. Et je pense que nous pouvons donc manifester notre reconnaissance à Arkitelos pour cette présentation.